18h-19h. C'est 100% paillade sur France Bleu Héros.
Bertrand Connaught, je vous envoie une bouteille à la mer de 7, mais où êtes-vous Bertrand?
Eh ben, ça tombe bien, elle va arriver à bon port puisque nous sommes au Havre ce soir. Donc elle va mettre un petit peu de temps, mais elle va arriver. On vous entend Sébastien, merci beaucoup. Bonne soirée à vous du côté de Sète. La paillade donc espère ne pas finir le week-end au fond du trou, le trou normand en l'occurrence, puisque c'est la 27e journée de Ligue 1, que c'est la course au maintien, la dernière ligne droite. C'est au Stade Océane la prochaine étape où Montpellier va défier le Havre dimanche à 15h. 100% paillade donc en partie. Partie délocalisée ce soir. Benjamin Psaume et Maxime Reynaud sont en studio du côté de Montpellier. Bonsoir messieurs.
Salut Bébert, salut à tous.
Et bonsoir.
Benjamin, oh, ils sont pas beaucoup d'entrain, j'espère que ça va.
C'est Max, il a changé, Max. Il est passé sur une autre planète.
N'importe. Et Benji aussi, il a changé il y a quelques journées aussi. Il est passé sur une autre planète, dans une autre dimension. Benjamin Psaume, consultant France Bleu Héros, encore pour le moment, journaliste à Midi Libre, ça c'est Maxime Reynaud. Nous sommes donc au Havre, je suis pas seul non plus, à mes côtés Benoît Donquel, journaliste à Paris Normandie. Bonsoir Benoît.
Salut Bertrand, bonsoir à tous.
Salut. Benoît qui a raccroché avec Jean-Michel Roussier il y a deux heures et demie. Le président du HAC engagé dans un brin de fer avec celui du MHSC. On va en parler d'ici 19h. On va aussi évoquer largement le grand entretien accordé par Laurent Nicolin à Maxime Reynaud au Midi Libre. Le fond, la forme, le timing également. Beaucoup de choses à dire après cet entretien fleuve donc du président du MHSC. Mais d'abord la clé du match avec Benjamin Psaume. 04 67 58 6000. Ça, vous connaissez, c'est le numéro à composer d'ici 19h pour intervenir ou pour réagir. C'est Chloé qui réalise l'émission et c'est Hélène qui est au standard.
100% paillade sur France Bleu Héros. 100% paillade sur France Bleu Héros. La clé du match.
La clé du match, elle est dans les mains du coach Benjamin, Michel Derzakarian, que vous souhaitez différent et même surprenant.
Ouais, c'est ça Bébert. Elle était clé du match, j'ai réfléchi. Je pense que celui réellement qui a la clé du maintien du MHSC, c'est un homme. Et pour moi, c'est Derzak. Ça fait un moment que je l'ai pas mis en clé du match. Mais j'ai repensé un petit peu à tout l'historique ces dernières semaines, tout ce qu'il nous dit en conférence de presse. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui m'interpellent, et notamment quand il nous explique à la fin de chaque contre-performance que c'est pas du tout les consignes qu'il a données qui ont été appliquées sur le terrain et qu'en gros ces joueurs n'avaient pas écouté les directives qu'il donnait. Et à un moment donné, je me demande, on en a déjà parlé, on a fait le débat, s'il est réellement écouté. Et j'aimerais sur ce match-là, parce que on en a parlé tout à l'heure Bébert, ça m'est déjà arrivé durant ma carrière, où j'avais un entraîneur qui faisait des causeries tous les week-ends, des causeries qui faisait un bon coach, un bon entraîneur de Ligue 1, qui nous faisait des causeries tous les week-ends.
On peut le dire, c'est Philippe Montagnier, on peut le dire.
Philippe Montagnier qui était chez nos amis du TFC, chez Max Reynaud qui est content. Et du coup, il nous faisait des causeries très bien dans l'aspect tactique, technique. Mais il ne nous faisait pas forcément grimper au rideau. Et c'est un facteur dans la causerie à 2h du coup d'envoi, juste avant d'aller au stade quand t'es à l'hôtel, qui est assez important quand t'es entraîneur. Et je pense que Derzak, dans ses causeries, ne fait pas, sans faire injure, grimper au rideau ses joueurs depuis un moment. Dans l'aspect, je parle agressivité, parce que là, tu mises sur le mental, l'agressivité, la fierté des joueurs, des choses comme ça. Et un jour, Philippe Montagnier, ce qu'il a fait, on s'y attendait pas, un derby assez important où on jouait notre maintien, c'était à Amiens. Ben, à l'hôtel, il a mis un chassé dans le paperboard, en plein milieu de la causerie, il est arrivé, il a mis un chassé en pleine causerie dans le paperboard. Il nous a tous regardés, on l'avait jamais vu comme ça. Et là.
Un derby parce que vous étiez à Boulogne, hein.
J'étais à Boulogne. C'était à Boulogne-sur-Mer, c'était un derby là-bas.
J'allais dire le derby Amiens-Toulouse.
C'est pas à côté. Et en fait, alors je n'ai pas expliqué à Derzak ce qu'il doit mettre dans ses causeries, mais je raisonne en tant que joueur. Quand on a vu ça et on s'est regardé entre joueurs, on s'est dit oula, on a de suite compris la gravité du match et de la situation parce que pendant 9 mois, il nous avait pas fait ça. Et là, d'un coup, on le voit vriller. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est que Derzak, à l'hôtel au Havre, chez toi là-bas, mais qui muscle peut-être un petit peu son discours, qui rentre un petit peu dans les mecs. Il faut rentrer un peu dans les mecs et leur expliquer, parce qu'on ne fait que se poser la question depuis des semaines et des semaines, est-ce que les joueurs ont pris conscience de l'urgence de la situation? Mais je vais te dire, rentre un peu dans tes mecs à la causerie, fais-leur un petit peu.
Qui mettent un chassé à Savagnier.
Non, mais montre-leur. En fait, faut peut-être. Et en fait, nous, ça avait fait un électrochoc, ça. Ça avait fait un électrochoc où on s'était dit, oh, là, ouais. Et en fait, j'ai l'impression, quand je vois l'équipe évoluer, on n'a pas eu cet électrochoc où je vois les mecs, un réel changement, un énorme changement. Et je pense que le seul qui peut inculquer ça, c'est le capitaine du navire, c'est Derzac, avec l'appui de TJ aussi. Mais ça, TJ, je sais très bien que ce que je suis en train de te dire, lui, il le fait dans les vestiaires, il le fait sur le terrain. Ça, c'est sa mentalité. Mais j'aimerais que Derzac fasse basculer et fasse comprendre à ses joueurs qu'il a un management différent. Et je ne veux plus entendre après les confs, et notamment dimanche à 17h au Stade Océane, je ne veux pas entendre un Derzac qui va m'expliquer que ses consignes n'ont pas été écoutées, qu'il n'a jamais demandé ça à ses joueurs.
Voilà, c'est comme avec Madame Psaume, il faut casser la routine et c'est ce que demande Benjamin ce soir.
Ah,
Derzac Arian qui va tenter en tout cas de trouver la clé. On espère que ce sera l'une des clés du match, Benjamin, mais Derzac Arian qui n'aura pas tous ses outils. Chautard et Silla sont absents. Coup dur, Maxime Reynaud, le médical n'avait pas donné son feu vert. Info livrée lundi ici par Benjamin notamment. Le staff a donc suivi les deux joueurs qui sont des joueurs capitaux, ne seront pas là dimanche après midi.
Oui, c'est ce que nous a dit Michel Derzac Arian ce matin en conférence de presse. Il a confirmé ce que tout le monde imaginait un petit peu par rapport à Jory Chautard. On était peut-être un petit peu plus surpris pour Ishaga Silla puisqu'on l'avait vu recourir en début de semaine, mais il a rechuté a priori au mollet qui avait été touché au PSG. On lui a posé la question de savoir si c'était le même mollet qui l'avait déjà fait souffrir en première partie de saison. Donc là, pour le coup, c'est l'autre mollet. Donc Ishaga Silla n'est pas laissé en paix. Jory Chautard, lui, on l'a vu trottiner avec Yanis Issoufou, qui a un problème à la cheville, lui, mais il sera trop court et Michel Derzac Arian n'a pas voulu dire s'il espérait pour la réception de Lorient, mais j'imagine que ça devrait être...
Plutôt... Je vais te répondre, moi. Je suis vraiment
Derzac. Vas-y, docteur.
Non. Silla, la reprise, normalement, était tablée sur le Havre. Le but était de le refaire jouer au Havre. Comme tu dis, dans la semaine, petite alerte encore, et du coup on a repoussé le délai pour être là pour Lorient. Chautard, c'est la même chose, il n'a jamais été question de la présence de Chautard au Havre, jamais au sein du médical. Par contre, tout est fait bien évidemment pour qu'il démarre contre Lorient, parce qu'on sait l'importance de ces deux matchs, donc on les garde vraiment, on ne prend aucun risque, ce que je pense que c'est une bonne idée personnellement, pour les avoir pour Lorient.
Ok, bon, ce sont les deux principaux absents. Guéguin, évidemment, Issoufou, même si Issoufou joue pas beaucoup.
Bertrand, il faudra juste scruter pour Falaï Sakho, qui était absent aujourd'hui et sur lequel il y a une incertitude pour une petite blessure à une cuisse contractée hier. Mmh. Et puis, on a aussi vu Khalil Fayad qui a écourté sa séance ce matin.
Et Wahbi Khazri qui, lui, sera suspendu sur cette 27e journée. Alors, comment va jouer Michel Derzac Arian selon vous? Il est à 4 depuis 3 matchs en défense. Nul contre Strasbourg, victoire à Nice, énorme claque face à Paris. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous imaginez voir jouer Montpellier, Benji, Maxime?
Vas-y, Max, si tu veux.
Tu veux pas te risquer. Moi, sincèrement, je resterai sur le 4-2-3-1 qui avait été plutôt très intéressant à Nice et sur la première mi-temps contre Paris, il faut pas l'oublier. Certes, tu exploses sur la seconde mi-temps contre Paris. Certes, il y a eu des boulevards même en première mi-temps. Mais quand même, je trouve qu'il y a une animation qui est plus intéressante et que tu as des repères avec cette charnière Omeragic-Kouyaté. Omeragic s'est régalé en Irlande avec l'équipe de Suisse. Il a joué que 10 minutes. Il est frais et dispo. Je pense que il sera en forme. Voilà.
Ouais, moi je partage aussi 4-2-3-1, je reste là-dessus. Faut pas que cette deuxième mi-temps contre Paris occulte tout ce qui a été à peu près qui a bien fonctionné ces derniers temps, notamment à Nice sur la première mi-temps de Paris aussi. Du coup, je resterai sur ça parce qu'on a besoin de points. Alors ça va pas être facile au Havre, ça on va en parler, mais on a besoin de points. Je trouve que TJ est un peu plus haut, ça fait du bien malgré tout. Et après on a nos flèches sur les côtés qu'on va pouvoir envoyer. Donc ça c'est toujours intéressant. Et vu qu'il y a pas Wahbi, je pense qu'on va avoir le retour d'accord en pointe sur ce match-là. Donc dans l'aspect offensif, ben, je nous trouve malgré tout, quand tu vois sur le papier, on est super intéressant dans l'aspect offensif.
Oui, et puis en plus Moussa Tamari qui s'est vraiment éclaté en sélection. Alors peut-être ça lui aura donné un petit peu d'air et peut-être diminué son appréhension qu'on avait vu sur les précédents matchs par rapport à son épaule. Donc Tamari, Nordé, Adams.
Ouais, surtout je pense le bol d'air psychologique,
oui, aussi.
Même pas de l'épaule ou quoi que ce soit, mais on l'a vu vu, sans trahir de secret, on l'a vu très très atteint par la situation avant de partir en sélection. Et je pense que psychologiquement, d'avoir planté avec son pays comme ça, on espère que ça va lui donner le bol d'air, même si je suis d'accord, c'est pas du tout le même niveau, on est d'accord. La Ligue 1 est quand même les pays qui l'affrontent, mais ça reste un niveau international. Mais j'espère vraiment qu'il va revenir avec l'envie de replanter, de re-être décisif avec le MHSC. Et comme je disais pour Nordin, je pense que c'est Moussa Altamari, s'il retrouve la confiance, qui peut te sauver cette saison.
Et après, je le redis quand même, j'en profite puisque vous parlez de lui, Moussa Tamari, je vois passer du scepticisme par rapport à sa blessure à l'épaule. Il y a une blessure à l'épaule, vous croyez que quoi, qu'on se fait injecter tous les 15 jours quand on n'a rien? Non, Moussa Altamari joue bien diminué, et notamment à Montpellier en Ligue 1, c'est pas la même chose de jouer en Ligue 1 avec l'intensité demandée que de jouer en sélection face au Pakistan, parce que je sais que ça a été, voilà, il a été un peu décrié parce qu'il a marqué un triplé face au Pakistan, et les gens se sont dit, ah bah finalement il a rien à l'épaule. Si, il est diminué, il ne peut pas faire certains mouvements. Après, est-ce qu'il peut jouer? Oui. Est-ce qu'il a envie de jouer? Oui. La réponse est oui. Est-ce qu'il est heureux en ce moment à Montpellier? La réponse est clairement non. Moussa Altamari n'est pas heureux de sa situation, pas heureux de sa situation, j'entends sportive, de son utilisation. Il serre les dents par rapport à son épaule. Il fait profil bas par rapport aux consignes qui lui sont données. Mais il y a aussi beaucoup de paramètres qui font que Moussa Altamari n'est pas aussi performant en ce moment qu'on le souhaiterait. Il y a l'épaule, c'est une petite partie, ça l'empêche pas de jouer. On est d'accord, il a marqué en sélection. Mais après, il faut se demander aussi dans quel état psychologique se trouve Moussa Tamari. Et Benji, tu viens de le rappeler, il n'est pas c'est pas le Moussa Altamari frais, dispo, heureux qu'on voyait il y a quelques mois.
Ouais, c'est exactement ça. On le sent usé un petit peu par la situation, comme tu l'as dit, par peut-être son positionnement, ce qu'on lui demande au quotidien. Mais après, Altamari, comme on disait, parce que j'ai vu aussi passer des messages comme ça, et Altamari, sans faire injure, contre le Pakistan à 60%, avec le pied gauche et un petit peu la vitesse, la qualité, il peut te marquer et faire ce qu'il a fait. Mais c'est vrai qu'en Ligue 1.
Donc elle, à mes côtés, aurait pu
voilà. Éventuellement. Mais, non, je respecte quand même.
mais t'as pas vu Benoît Donc elle,
tu parles. Un athlète.
Mais après, c'est vrai qu'en Ligue 1, par contre, il faut du Tamari à 100%, parce que ça suffit pas à la vitesse. On l'a vu dans les duels, il va moins au contact, il va moins au duel. Et il faut du 100%. Les raisonnements après de dire il flambe qu'en sélection et chez nous, il est pas blessé, je m'en occupe pas trop de ça.
Après, juste si on peut dire un mot quand même, il faut pas oublier que c'est sa première saison dans un grand championnat, entre guillemets. Il enchaîne les allers-retours en Jordanie. Pour prendre un exemple, en novembre, il était allé au Tadjikistan, c'était plus de 12 000 kilomètres. Là, il s'est farci une Coupe d'Asie qui a duré un mois, qui a dû être éprouvante psychologiquement aussi, qui a demandé de l'influx nerveux. Il revient dans une situation qui est compliquée. Bon, je trouve que ça fait beaucoup pour un seul homme, mais en plus de l'épaule, je pense qu'il faut être un petit peu...
Juste un homme, qui n'a jamais triché sur le terrain, mais loin de là, qui a toujours voulu jouer quand même, qui s'est toujours donné à fond. Après, tout n'est pas parfait, bien sûr. Mais je trouve qu'on est assez sévère avec lui. Le problème, c'est ce que je te dis tout le temps, Bébert à Corse, c'est la même chose. Ils nous ont vendu du rêve en début de saison, ça plantait but sur but et compagnie.
Ils auraient dû en garder sous la semaine.
Et voilà, on retient toujours dans une saison, je te le dis tout le temps, Bébert. Le début et la fin. Donc si le début, ils ont cartonné, et là, à Corse, il nous met 2-3 buts, Moussa, il nous en met 2-3, mais on va dire finalement, on va retenir le début et la fin, on va dire qu'ils nous ont sauvés.
Bon, messieurs, un mot sur l'équipe du Havre en face. Évidemment, ça joue comment? Ça joue avec qui? Benoît Donquel était à l'entraînement, à la conférence de presse ce matin avec Lucas Elsner et un joueur qui était Arthur Desmas, l'un des gardiens.
Ancien gardien, de Rodez.
Ancien gardien de Rodez. Donc ça fait plaisir à Maxime Reynaud. Ils ont grandi ensemble, grandi ensemble.
Ouais,
dans cette belle
grand.
Ville de Rodez. Ça joue comment, Benoît Donquel?
Bah déjà, ça va essayer de jouer tout simplement parce que les Havrais restent sur une partie on va dire moche, laide en terre clermontoise, pas grand chose dans le jeu, beaucoup de tension, deux partenaires qui sont sur le point d'en venir aux mains. Bref, il y a une page à tourner, et cette page ils espèrent la tourner effectivement face à Montpellier.
Le conflit est réglé d'ailleurs?
Oui, le conflit est réglé le soir même. L'un sur Instagram, on va nommer Christopher Perry, et l'autre sur X, on aura nommé Mohamed Bayo, ont chacun pondu quelques lignes histoire de calmer la situation. Voilà, bon, effectivement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Sur le terrain, c'est un petit peu plus rare. En plein match, c'est encore plus rare. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent sans doute souvent à l'entraînement et parfois dans le vestiaire.
On a vu ça récemment.
Voilà, ouais, ça peut arriver dans le vestiaire aussi sans que personne ne le sache. Voilà, bon, incident clos. Après, en termes de schéma, je pense que les Havrais bougeront pas. Ils resteront sur leur leur 4-3-3 habituel.
Il y a des absents, oui.
Il y a des absents, il y a un absent de marque. Un absent de marque, c'est Oussama Targalin, qui va à Clermont pour, voilà, pour petite cerise sur le gâteau après un rouge. C'est le seul forfait marquant. Après, il y a deux incertitudes. Il y a Runa Sanganté, qui a pris un coup sur le tibia.
Capitaine,
latéral droit, qui a pris un coup sur le tibia lors du rassemblement avec le Sénégal. Et Josué Casimir, qui lui traîne une douleur, un genou. Alors normalement, sa saison devait être terminée, voilà, pour cause d'opération au ménisque. Et finalement, le chirurgien a dit qu'il pouvait poursuivre sa saison.
Il y a un bon hôpital ici au Havre. Hein.
Voilà, ouais, se faire opérer un petit peu plus tard. Précisons que la blessure ne pourrait pas s'aggraver. Donc il y a une gêne, il va serrer les dents. Est-ce qu'il sera titulaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est candidat.
Est-ce que je peux envoyer à ce chirurgien Benjamin Psaume? Parce que si des joueurs qui sont sur une patte, il arrive à les mettre sur trois, c'est quand même un magicien.
Oui, et puis comme ça, avec Mathieu Gorgelin, ils pourront aller pêcher de temps en temps, voilà, ça sera parfait.
Général, Benoît, quel système et quel type d'équipe, de jeu, de profil est embêtante pour cette équipe du Havre?
Bah, comme pour beaucoup d'équipes, quand il y a un bloc bas, ça reste compliqué. Maintenant, des équipes qui ont réellement embêté le Havre au stade Océane, je parle, je pense qu'il n'y en a eu que deux. Il y a eu Lille, qui a vraiment donné une leçon de football au Havre, c'était en première partie de saison. Et la deuxième équipe, ici, j'en cite deux, mais finalement...
Le Stade Rennais?
Stade Rennais, non, pas le Stade Rennais.
PSG, parce que, même pas, non, le PSG était réduit
Le PSG a rapidement été réduit à 10, alors voilà, le PSG repart avec une victoire, parce qu'il y a le joueur, il y a Mbappé. Ce jour-là, c'est Donnarumma qui est expulsé rapidement. C'est sa doublure, excusez-moi, je ne me souviens plus de son nom, qui a pris le relais et qui a fait un véritable show.
C'est l'espagnol.
Ouais, c'est ça, qui jouait avec la baie du Barça, avec la baie du Barça la saison dernière, je crois. Ouais. Mais sinon, voilà, à part Lille qui a vraiment posé de gros soucis au Havre ici au stade Océane, peu d'équipes finalement ont réussi. Alors, il y a des équipes qui se sont imposées. Hein. Rennes s'est imposée. Alors Rennes, il y a une première mi-temps des Havrais très très bonne, sans but. Rennes a accéléré sur les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Ils ont fait la différence. Reims s'est imposé aussi, mais bon, dans un match qui aurait sans doute mérité le résultat nul sur un pénalty à la 96e ou 97e minute. Bref, à domicile, les Havrais sont relativement sereins.
Ouais, c'est pas trop mal. À Montpellier, il y a un ancien joueur qui m'a dit cette semaine, si j'étais, je le cite sans le nommer, si j'étais Roussier, donc le président délégué du HAC,
président du
club Havre, vu les déclarations de Laurent Nicolin à son sujet, je doublerais ou je triplerais la prime à mes joueurs pour à tout prix le gagner ce match-là. Est-ce que, on va revenir sur ce bras de fer qui oppose les deux présidents, est-ce que c'est le genre de la maison d'abord?
Je crois pas. Est-ce que c'est toujours d'actualité d'ailleurs les doubles primes, les triples primes avant les matchs, hein, je parle, hein, après les matchs peut-être que après les matchs certaines équipes demandent la double prime, mais est-ce qu'avant les matchs on propose une double prime? Je sais pas si c'est le après Roussier, c'est pas le perdreau de l'année, c'est aussi un peu vieille école, donc peut-être qu'il y aura de ça.
Il peut aller parler à quelques joueurs, il peut aller dire l'importance de ce match-là face à ce président,
non,
parce que finalement
pas,
on va résumer
pas.
La situation. Il y a eu une négociation autour du fameux accord CVC. Le HAC s'est trouvé floué avec l'ancienne direction qui a signé un accord qui leur a filé des cacahuètes. Et Laurent Nicolin, de son côté, a pris plus de 30 millions d'euros dans cette histoire. Donc il y a un delta de 30 millions d'euros entre les deux clubs. Et Laurent Nicolin dit à Jean-Michel Roussier, qui s'en plaint depuis plusieurs mois, il le redit dans le JDD, si t'es pas content, tu nous attaques en justice, tu vas voir ailleurs, tu t'en vas, tu quittes la Ligue 1, tu fais ce que tu veux, mais l'accord est signé. Voilà en gros ce que dit Laurent Nicolin.
En justice, le dossier est en cours. Hein.
Oui.
Le dossier est en cours. Maintenant, il y a le parquet national financier et le Sénat qui se penchent également sur le dossier CVC et la façon dont est répartie la manne financière. Voilà, donc le président Roussier ne veut pas lâcher l'affaire, ce qui fait que autour de lui, ses homologues tremblent un petit peu, à commencer par Laurent Nicolin, qui, dans le JDD, dit « S'il faut que je rende les 33 millions d'euros, je mets la clé sous la porte. » Oui, mais le HAC n'a perçu que 1,5 1,5 million d'euros. Donc effectivement, il y a un delta énorme. Et les deux équipes sont dans la même division.
Après, dans cette histoire, il y a un accord qui a été signé, donc de toute façon par le club Avray. Alors c'était l'ancienne direction, Jean-Michel Roussier, il voit débarquer le dossier. Bien voilà, sûr, il est signé. Sûr, il y a la signature de Pierre Ventier à l'époque.
Je pense que c'est Pierre Ventier, oui, tout à fait.
A priori, ouais, ouais, sur ce dossier. À la limite, pour moi, c'est même pas ça le problème. Le problème, ce sont, et je le dis très franchement, on a beau travailler aux côtés du MHSC, le problème, ce sont les déclarations de Laurent Nicolin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est président de Première Ligue, il est président des clubs, il est président des présidents. Moi, j'ai du mal quand même à lire, si ce n'est à entendre Laurent Nicolin, venir taper sur la tête de Jean-Michel Roussier. C'est-à-dire que, ok, d'accord, dis-lui cet accord, ton club l'a signé et tu en es finalement l'héritier. De là à lui taper dessus et à quasiment l'insulter, je trouve ça un peu fort de café.
Oui, oui, tout à fait. D'autant qu'il y a, quand même beaucoup, beaucoup d'incohérences. Alors certes, l'ancienne direction a signé cet accord. Première incohérence, si le HAC était resté en Ligue 2, le HAC aurait perçu plus de CVC. Alors dans quel autre pays un club qui accède à la division supérieure touche moins d'argent que s'il était resté au second niveau? Voilà. Le président de la Ligue a quand même pris 3 millions d'euros, je crois, dans l'histoire. Donc plus que le Havre, enfin c'est incroyable. C'est incroyable. Alors maintenant, effectivement, est-ce qu'il y a eu des irrégularités? Je pense que si le PNF met son nez dedans, c'est que il soupçonne peut-être, hein,
le
peut-être,
parquet national financier
soupçonne peut-être quelque chose. Le Sénat, voilà, est interpellé également par la façon dont tout cela s'est négocié. Donc on va attendre.
C'est aussi pour ça, Benoît, que je posais la question sur l'attitude de Jean-Michel Roussier avant ce match-là et à une semaine après les déclarations de Laurent Nicolin. C'est qu'à un moment donné, ces joueurs aujourd'hui, alors je pense qu'ils sont pas mal payés au Havre et que les conditions sont bonnes, mais à un moment donné, si tu n'as pas plus de millions d'euros dans tes caisses et donc peut-être des conditions qui pourraient être meilleures, salariales, en matière d'infrastructure, en matière de, je sais pas, de déplacement, de tout, tu peux aussi dire à tes joueurs dimanche matin, et je le crains, vous savez, de qui c'est la faute.
Oui, bien sûr. Alors après, est-ce que je n'imagine pas venir s'inviter à une causerie d'avant-match. Il y a l'entraîneur, il y a Mathieu Bonnemer également qui est là. Donc je suis pas persuadé.
Mais ils ont sans doute pas besoin de lui pour le savoir. Mais...
Voilà, c'est ça. Ou peut-être que le message sera discrètement glissé. Maintenant, les Havrais en font pas non plus oui. Sur le terrain. Auront pas le dossier CVC en tête. C'est plus l'avenir du club et leur avenir qui sera en partie en jeu. Dimanche après-midi.
Dernière question, Benoît, est-ce qu'on a l'impression du côté Havre que ce match est déjà décisif? Oui.
Ah bah maintenant tous les matchs que les Havrais vont disputer vont être décisifs. Il y a trois semaines face à Toulouse, le HAC était au coup d'envoi barragiste. C'était déjà un match, pas un match coup près. On n'est pas encore dans les deux dernières journées, mais déjà un match très important pour la suite et ce sprint final. Voilà, les Havrais sont exactement dans la même situation qu'il y a trois semaines. Voilà, ils ont battu Toulouse et puis derrière il y a eu le flop à Clermont. Eh ben, faut recommencer, faut repartir.
Benoît Donquel, merci beaucoup.
Merci
on sera
à vous.
Ensemble côte à côte, ou pas loin en tout cas, dimanche après-midi, Stade Océane. J'espère que ma place est toujours libre.
Ça va se négocier.
Ça va se négocier.
Ça va se négocier.
Ça va se négocier au buffet. 18h30, Benoît Donquel, Paris-Normandie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir
merci
ici
en
vous. Direct du Havre.
Merci
Je rappelle que nous, on est dans les locaux de France Bleu et France 3 sur les docks, quasiment, ici, et la vue est magnifique. Voilà, je pense que je vois des choses un peu plus jolies que Benjamin Psaume qui a vu sur Maxime Reynaud et vice-versa. Ça c'est.
On va se pas attaquer, mais ça va répondre. Hein, je te le dis.
À tout de suite. On se retrouve dans un très court instant. On va débriefer l'interview de Laurent Nicolin à la loupe, donc avec celui qui l'a réalisé en partie, Maxime Reynaud. Midi libre. À tout de suite. 100% paillade jusqu'à 19h.
Une grosse soirée ce samedi 30 mars au Zingo Zango. Le Giants of Rock Tribute Festival replonge dans les années 80. Les années 80. Avec un hommage à In Excess et un hommage à Tears for Fears. Giants of Rock avec les tribute bands de Tears for Fears et d'In Excess, c'est ce 30 mars au Zingo Zango. Remportez vos invitations avec France Bleu Héros.
Les Nautiques de Port-Camargue, le grand salon du bateau neuf et d'occasion, ouvre ses portes le week-end de Pâques pour sa 30e édition. Du 29 mars au 1er avril, venez découvrir 400 bateaux, 250 exposants et profitez d'animations et conférences. Les Nautiques de Port-Camargue, c'est la grande fête de la plaisance et l'art de vivre en marina. Entrée, parking et navette gratuite.
Le point circulation à 18h31. Elle est délicate, la circulation sur tous les axes du front de mer, sur la ligne Metz, Balaruc 7 et Frontignan, en raison d'escale à 7, bien évidemment. La circulation, elle, à 7 dans le centre-ville est impossible. Les parkings sont à votre disposition aux entrées de l'agglomération. Tout est très bien fléché, pas d'inquiétude. À cette heure-ci, les difficultés habituelles aux entrées et aux sorties de Montpellier, ainsi que sur les axes principaux, mais moindres par tradition le vendredi. À Palavas, les flots, on nous signale sur la départementale 986 une circulation particulièrement délicate et difficile en raison de la submersion d'une partie de la voie, soyez donc prudents, et l'habituel contournement ouest de Béziers aux abords de Maraussan, là vous roulez au ralenti. 100% paillade, Bertrand Connot, toujours au Havre.
Absolument, toujours au Havre, 18h32. On va maintenant débriefer l'interview de Laurent Nicolin avec Maxime Reynaud du Midi Libre, avec également Benjamin Psaume en studio. Plein de choses à dire, évidemment. Elle fait beaucoup réagir, cette interview. C'était dès hier soir en partie sur Internet. C'est ce matin dans le journal. On va rentrer dans le détail dans un instant sur le cas Delors, sur le cas Estève, sur les bonnes excuses aussi, sur le pétard, toujours. Mais d'abord, votre sentiment général à tous les deux. Benjamin, ton sentiment général quand tu lis l'intégralité de cette interview, comment tu en ressors?
Attends, il remonte ses manches.
Je sais qu'il est très remonté.
Il m'a dit.
Ouais, j'allais parler avec Max. C'est bien parce qu'on n'est pas d'accord trop. Deux lectures que j'ai eues. Dans un premier temps, je vais parler un petit peu pour moi du timing de cette interview, et après on va parler du contenu. Mais après le timing, le président, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait une sortie médiatique, très longtemps, puisqu'il ne répondait pas favorablement à toutes les demandes médiatiques depuis un moment. Et en fait, pour moi, s'il devait, à ce moment-là, dans le sprint final, on a déclaré il y a un mois et demi, l'état d'urgence au MHSC, ça veut dire l'état d'urgence, on fait fi un petit peu de tout ce qui se passe. Et pour moi, s'il devait vraiment sortir quelque chose dans les médias, c'était réellement appelé à l'union sacrée, la cohésion totale jusqu'à la fin de saison. C'était vraiment, alors ça n'aurait pas été une interview comme m'a dit Max, extraordinaire tout ça, mais vraiment j'aurais aimé qu'il appelle à la cohésion. On offre contre Lorient, c'est gratuit, même tous les matchs à domicile, on s'en fiche, on veut une moisson pleine, on sauve le club. Et dans deux
une opération commerciale notamment, comme ça se fait d'ailleurs ici au Havre. J'ai cru voir passer ça, que celui qui achetait un billet pour le match face à Montpellier avait un billet gratuit pour un prochain match à domicile, celui de son choix.
Par exemple, et j'aurais aimé que cette interview, dans le contexte actuel, se concentre réellement là-dedans. Alors bien évidemment, il en a parlé dans les premières réponses qu'il a données à Maxime Omidier.
Tu m'enlèves tous mes arguments, quoi.
Non, mais oui, je vais te laisser là. Il en a parlé aussi. Ouais. Mais dans le contexte actuel, état d'urgence, commando, Et là, je vais intervenir sur le contenu. Je trouve que ce n'était pas forcément le moment de... On sait tous les sujets qui brûlants, on sait les sujets qu'il a. Il en a parlé du dossier Estève, il a parlé de sa relation avec les médias, il a parlé de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout ça, on le sait depuis un moment, que ça le porte, que ça le gêne, tout ça. Mais en fait, en évoquant tout ça dans cette interview pour moi, en fait, comment te dire, je ne vais pas dire qu'il se disperse, parce qu'il le sait bien évidemment mieux qu'un autre, mais je trouve que le timing n'est pas le bon, parce que en fait, on doit déclarer une union sacrée, un commando, et ça, fais-le dans un mois et demi. Rappelle Max Reynaud, dans un mois et demi, deux mois, viens nous voir, président. Et là, fais le bilan de la saison, et là, sors tout ce que tu as à dire, tout ce qui ne t'a pas plu. Mais là, dans la situation actuelle, même si je sais qu'il est ultra concerné, concentré sur le maintien, il le sait mieux que quiconque, l'image que cette interview peut renvoyer un petit peu à tout le monde, toute la sphère montpelliéraine, même si je pense que ça, c'est les derniers de ses soucis, un petit peu l'image qu'il peut avoir vis-à-vis des gens, c'est qu'en gros, il est un petit peu sur plein de dossiers et pas forcément à 100% sur l'histoire du maintien, c'est juste l'image. Et c'est ça un petit peu qu'imaginer dans cette interview. Après, on va rentrer plus en profondeur avec Max, on va parler des sujets qui ont été abordés, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu ça le timing pour moi qui est, je ne le trouve pas fou.
Maxime Reynaud, réponse sur ça, et ensuite on va en effet rentrer dans le détail dossier par dossier.
Alors déjà, sur le maintien, sur au moins 8 des 15 questions ou 9 des 15 questions, Laurent Nicolet nous ramenait toujours au maintien. Évidemment, nous, pour des considérations de lecture, on ne pouvait pas à chaque fois être dans la redondance de toujours, mais je l'ai déjà dit, l'important c'est le maintien. Il le dit plusieurs fois, donc quand je dis nous, c'est Marc Blaquer et moi qui avons interviewé Laurent Nicolet. Donc ça,
entre les huîtres et la sole.
Entre les huîtres et la sole, c'était un détail important, je trouve ça donne un peu...
le contexte.
Voilà, c'est des...
Bon. On a comme ça un aperçu de votre train de vie, c'est, en ouais, effet, c'est ouais, pas c'est... mal.
Oui, bon, là après c'était une petite journée. Hein,
Moi c'était entre le quinoa voilà. et les artichauts, mais bon...
C'est pas pareil, c'est notre standing midi libre.
Oui, bah oui, mais écoute, nous...
Bon, bref,
c'est pas l'essentiel. Donc, ça je trouve que c'est important quand même à replacer. Il insiste énormément, son message c'était le maintien. Il parle de l'union sacrée dans la version longue sur internet. Vous pouvez voir qu'il en parle notamment avec les ultras. Alors malheureusement on peut pas mettre des interviews de 20 000 lettres ou caractères sur le journal, donc ça c'est des considérations qui nous sont propres. Ensuite sur le timing, on peut pas à la fois lui reprocher de ne pas assez parler et de, quand il le fait, lui reprocher de parler.
On peut lui reprocher le contenu ensuite, mais pas lui reprocher de parler, en effet.
Ouais. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. En plus...
Oui, parce que moi, je trouve très bien qu'il parle en soi. Je veux dire, on l'attendait. Il a choisi Midi Libre cette fois. Il avait refusé d'autres demandes précédemment. Mais alors, sur le fond et sur la forme, en revanche, il y a, selon moi, et on va en parler... quelques vérités, mais beaucoup d'incohérences aussi à souligner.
Mais juste pour finir sur le timing, en quoi ce qu'il dit là est perturbant pour la fin de saison ? C'est vraiment la question que je me pose. J'entends la question du timing, hein, mais...
Moi, je pense, par exemple, c'est des trucs de joueurs, en fait, de joueurs de vestiaire. En fait, quand le président dans le club parle, tu es attentif à tout ce qu'il dit.
Ouais. Par exemple, moi, on va rentrer dans le vestiaire, quand même.
On va rentrer dans le détail. Mais sans faire avant le débat. Mais par exemple, moi je pense qu'Andy Delors, il va revenir au MHSC. De ce que je vois, je pense qu'ils vont le faire revenir et tout. Mais quand t'es à Corradam sous certains attaquants, tu vois que t'es dans un sprint final ou d'autres, ça peut gêner, ça peut froisser. Ça peut un petit peu froisser des mecs. Parce que tu communiques déjà dans un sprint final. On est dans un sprint final, Max.
Benji,
tu communiques déjà.
Benji, on va pas être naïf quand même. On sait tous très bien qu'au mercato d'hiver, ils ont cherché un attaquant.
Ah, mais on le sait.
Ils ont fini par prendre Caramo, mais c'était un attaquant. Donc Accor, il le sait. Et puis il a pas marqué le plus.
Non, mais Accor, moi je pense que cet été, bien évidemment, ils vont se positionner sur les attaquants. Il n'y a pas de problème, c'est le mercato d'été. Mais là, dans un sprint final, moi je pense que certains joueurs d'investir peuvent mal le percevoir. T'as le cas Maxime Estève aussi qui prend une...
Mais si, on va rentrer justement dans le détail. Voilà, on va rentrer dans le détail. Voilà, on a compris sur le timing. Vous n'êtes pas d'accord et moi je suis moyennement d'accord. Je suis entre les deux.
Pas d'accord. Moi je suis moyennement d'accord parce que comme je suis d'accord, tant mieux qu'il parle. Mais.
On a compris. On va rentrer dans le détail. Maxime Estève, donc d'abord, on va parler de Delors ensuite. On va parler, si vous voulez, également du traitement des supporters et des réseaux sociaux, de la remise en question. Pour moi, il y en a tout simplement pas, mais on va essayer d'évoquer tout ça sur les 20 grosses minutes qu'il nous reste dans cette émission. Maxime Estève, d'abord, il s'est fait matraquer littéralement dans cette interview. J'en relève un passage. Un gamin formé au club qui prétend l'aimer et qui veut partir pour quelques euros de plus. Je ne vais pas à la guerre avec ça. Ça, c'est Maxime Estève. Voilà comment il est considéré. Moi, je vais vous le dire franchement et je vous laisse répondre ensuite. J'aime bien Laurent pour plein de raisons, mais je vais aussi le dire, je trouve que ce passage sur Maxime Estève est lamentable. Il est, à mon avis, totalement déconnecté de la réalité du foot actuel et il est presque malhonnête sur ce fait-là. Je vais vous donner mes arguments, vous direz si vous les partagez. Peut espérer en fait continuer à mener des guerres, comme il le dit, c'est notamment grâce aux 14 millions que Maxime Estève t'a rapporté. Ça, c'est une première chose. Et il reconnaît d'ailleurs lui-même, ça fait trois mots dans l'interview, mais que en effet, il n'aurait pas touché ces 14 millions d'euros s'il avait attendu cet été, comme visiblement il le souhaitait. Lui, le président et la direction du club. Sauf que je suis désolé de le dire aussi, mais si t'avais pas envie de le vendre, Maxime Estève, qu'est-ce qui t'a obligé ? Est-ce que Maxime Estève et ses agents sont venus avec un couteau mis sous la gorge gorge de Laurent Nicolin, de Michel Mézi ou de Bruno Carotti. Jamais, jamais de la vie. Donc t'étais pas obligé, à un moment donné, t'es président. Si tu veux fermer la porte, tu la fermes. Elle est à double tour et Maxime Estève, il reste ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si évidemment tu veux pas mettre la tête à l'envers de Maxime Estève, tu fermes la porte à double tour, mais tu mets les formes. Les formes, tu fais venir Maxime Estève dans ton bureau, t'es président, tu l'invites, tu lui dis combien t'aimerais qu'il reste jusqu'au mois de juin, combien t'aimerais et combien tu penses qu'il va apporter dans la course au maintien. Ça, c'est la première chose. Tu le cajoles, ton joueur, pour reprendre un terme de Michel Derzakarian qui dit parfois il faut les cajoler, puis il faut parfois les piquer. Bah là, en l'occurrence, tu le cajoles. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que Maxime Estève a été invité par Laurent Nicolin ou la direction pour lui signifier à quel point il était important? Je suis désolé, mais dans le foot actuel, ça fonctionne comme ça. Les joueurs, ils ont aussi besoin de ça. Et ensuite, tu peux aussi te dire que Maxime Estève, eh ben, il faut le prolonger parce que t'as quand même entre les mains un gamin de 20 ans qui est international espoir, qui a gagné le Festival Espoir de Toulon, qui est sélectionné par Thierry Henry alors qu'il joue à Montpellier. C'est quand même des choses sur sa qualité, sur son profil. Et non seulement tu le prolonges pas, mais en plus, tu ne respectes pas la promesse que tu as faite l'été dernier, puisque Maxime Estève, au sortir de la saison passée, tu lui promets de le prolonger. Et que quand il revient plusieurs fois ensuite en jouant, après avoir joué latéral, après avoir joué central, après avoir fait 15 matchs, au soir du match contre Marseille, tu lui dis quoi, Maxime Estève, ce soir-là? Tu lui dis, non, je suis désolé, la prolongation, elle n'est pas d'actualité. Qu'est-ce que tu crois que tu envoies comme message? Un, tu ne l'as pas mis en valeur, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué précédemment. Deux, tu ne lui offres pas de prolongation de contrat et tu crois pouvoir penser dans le foot actuel que Maxime Estève, international espoir qu'il devient, avec les sollicitations qu'il a, tu vas pouvoir le conserver. Mais tu te fous le doigt dans l'œil en pensant un truc comme ça. Et c'est là que je dis déconnecté. Pour moi, si tu penses comme ça, si tu penses que le joueur va rester pour tes beaux yeux alors que d'autres t'ont montré qu'il n'avait pas envie de le faire, eh ben franchement, t'es complètement à côté de la plaque.
Bravo. Bravo. Ben franchement, j'ai pas grand chose à rajouter parce que t'as expliqué un petit peu tout. Parce que c'est vrai, c'est pareil, on a vu pas mal de choses passer sur Maxime Estève depuis la sortie de l'interview. Et c'est bien de réexpliquer le contexte, puisqu'on ne sait jamais les tenants et les aboutissants. Et c'est bien de réexpliquer tout ce contexte-là. Un joueur, souvent, est décrié, mais c'est ça qui est dur quand t'es joueur, Max. C'est quand tu entends des choses sur toi et que les gens ne savent pas ce qui s'est passé en interne.
Et là, oui, ben, j'ajoute juste une chose dans ce dossier aussi, c'est qu'il dit pour quelques euros de plus. C'est pareil, faut être honnête, faut être honnête aussi. La première ligue, Maxime Estève, il a quadruplé son salaire et il est même pas parti pour le salaire au départ. Son rêve, c'était de jouer en première ligue et il voyait bien aussi à un moment donné, faut aussi se poser des questions et Benoît Donquel peut le dire aussi ici, à un moment donné tous les joueurs, il y en avait aucun qui voulait signer au Havre. Il y en avait aucun. Il a fallu attendre que Bodmer arrive ici pour on va dire je parle sous le contrôle de Benoît, mais à un moment donné quand Volpé était seul aux commandes du club, il y en avait plus aucun des jeunes qui voulait signer ici, qui voulait signer son premier contrat pro et qui voulait rester. À un moment donné, il faut aussi que les dirigeants se posent des questions sur pourquoi les joueurs ont envie de quitter le navire. Pourquoi Maxime Estève, pour tes beaux yeux uniquement, il n'a pas envie de rester. Maxime Estève, il a vu ce qu'était en train de devenir Montpellier, il a vu qu'il y avait le contexte, il a vu qu'on ne le caressait pas dans le sens du poil particulièrement, il avait le plus petit salaire des centraux. Et ben, quand on lui propose 4 fois le salaire, que son rêve se concrétise d'aller jouer en première ligue, et ben, il est parti. Voilà, il faut aussi se poser des questions.
Ça, c'est vieux comme le monde, Bertrand. En fait, c'est l'inconvénient d'être formé dans ton club et de signer pro dans ton club formateur, c'est qu'en fait, comme t'es là depuis longtemps, il y a une relation, ils te connaissent. Souvent, les premiers contrats pro comme ça, on pense que le joueur, par amour pour le club, comme il a été formé ici, on peut lui passer un petit peu tout, et notamment des salaires souvent ridicules par rapport à des joueurs que tu fais venir et qui sont sur le banc et toi tu joues le week-end. Et c'est là que le décalage se fait. Et Maxime Estève, c'est un petit peu ce cas-là. Le club a dû être surpris, le fait de l'avoir formé, qu'ils veulent partir comme ça. Mais dans un autre sens, tu peux pas donner à Maxime Estève un salaire qui est vachement moindre par rapport aux autres centraux qui sont sur le banc. Et c'est toujours ces soucis-là qui arrivent quand t'es formé dans ton club. Je l'ai vécu moi à Toulouse, j'avais eu ces soucis-là aussi. Et c'est vrai que c'est toujours ça qui est particulier. Mais au moins, ça explique un petit peu à nos auditeurs et à tout le monde le contexte et des négociations qui se font. Et il ne faut, c'est ce que je te dis à chaque fois, faut toujours avoir les deux sons de cloche et ne pas juger juste parce que Laurent Nicolin a dit ça, oui, et oui. Maxime Estève.
Et c'est pour ça que je dis que, après, venir dire, et je sais qu'il y a ce discours-là au club et parfait. Moi, je respecte. Si c'est votre choix de penser comme ça et d'agir comme ça, si vous pensez, comme certains le pensent au club, que Maxime Estève, il avait encore des choses à prouver, bien sûr, évidemment qu'il avait encore des choses à prouver. Sauf que dans le foot actuel, c'est comme ça. Je suis désolé. On peut le déplorer ou on peut applaudir comme vous voulez, mais dans le foot actuel, quand tu t'appelles Maxime Estève ou un autre et que tu es international espoir et que donc tu commences à côtoyer des joueurs qui, parfois d'ailleurs, ne jouent pas dans leur club, mais ont des gros salaires, ont des situations situation mirobolante, joue à l'étranger, ont des propositions, eh ben je vais te dire, t'as intérêt à venir à ton joueur, à le cajoler, à lui dire que vraiment tu comptes sur lui, à le revaloriser, à le prolonger, parce que sinon il s'en va. C'est comme ça, faut arrêter de vivre dans le passé ou dans le monde des bisounours. Le foot actuel, il est pas comme ça. Voilà.
Ouais. Max, le foot, il a changé. Non mais moi je pense que là, dans la réponse de Laurent Nicolin par rapport à Maxime Estève, déjà la question, il faut la resituer, c'était vous l'aviez bloqué il y a un an, pourquoi cette fois-ci vous ne l'avez pas bloqué? En gros c'était ça la question, mais le terme qui est important vraiment, je pense ce qui permet de saisir un peu l'état d'esprit, c'est le terme de déception. J'ai été déçu, je pense qu'il y avait un rapport, et je pense que Laurent Nicolin, il a un rapport un peu paternel presque aux joueurs qui sortent du centre de formation. Ouais. Et effectivement,
ce qui est bien Max, c'est ça veut dire quand même que Maxime Estève pourra revenir ici, parce que quand il est déçu d'un joueur, ça empêche pas les joueurs de revenir. Donc c'est bien.
Mais ça c'est aussi l'histoire de Montpellier, c'est ce qui fait ça, son côté
artistique. Beaucoup d'affect.
Oui, énormément d'affect. Alors après, pour le meilleur et pour le pire parfois, hein, mais oui, je pense que c'est pas parce qu'il, même s'il sort la sulfateuse, c'est pas pour ça qu'il le.
S'il le croise, il ouvrira pas dans ses bras et.
Oui, voilà.
Ah, mais j'en suis en plus persuadé.
Oui, mais sur le coup, il a été déçu. Voilà.
Je suis persuadé que. Au fond, il aime beaucoup Maxime Estève. J'en suis absolument persuadé. Je suis persuadé que Michel Messi aime beaucoup Maxime Estève. Sauf que je trouve que dans la forme, et on parle souvent de forme à Montpellier parce qu'elle est parfois maladroite, et ben je trouve que dans la forme, aujourd'hui, c'est malvenu que de démonter Maxime Estève. Parce que ça peut aussi faire passer l'idée que finalement, à la fin de la saison, si t'es en Ligue 2 ou si tu finis 15e, ce sera la faute d'un pétard et d'un défenseur central que t'as laissé filer. Moi, je trouve que ça fait un peu gros, que la ficelle est un peu grosse.
Ouais. On va rebondir aussi alors. On va rebondir.
Allez, on va pas refaire le débat.
Non, mais. Non.
Ah, sur le pétard, on a déjà dit, t'as déjà dit, Benji.
Ouais, j'ai dit ça lundi, il y a l'interview qui sort ce matin. Mais ça confirme ce qu'on disait, Bébert. Je veux pas qu'on arrive à l'avant-dernière journée, à la dernière journée, si malheureusement on est descendu, et qu'on se regarde et qu'on se dise on est descendu à cause de ce fameux pétard contre Clermont. Parce que j'ai l'impression que c'est notre totem d'immunité, depuis un moment. Et je sais pas, vas-y, Max.
Non, je te coupe parce qu'on va croire qu'il faut plus acheter le papier et juste regarder sur internet, mais sur la version longue,
il y a plus, ouais.
Sur la, voilà, dans la version longue, il a cette phrase: moi-même je ne pensais pas que ça ferait aussi mal. Ça part pas d'un claquement de doigts, alors que je le pensais finalement.
Il y a un truc que j'ai pas compris, Max, dans la réponse de Laurent, mais tu peux peut-être nous éclairer là-dessus. Oui. C'est qu'il dit ça a blessé les têtes comme ça a blessé les corps. Mais quel corps a été blessé avec l'histoire du pétard?
Peut-être qu'il veut dire qu'il y a eu des. Alors, si ça a blessé
les têtes. Parce que même le corps de Mauridio a pas été blessé, hein.
peut-être, parce que s'il dit que ça a blessé les têtes, peut-être que ça a blessé les têtes, donc le joueur était moins bien, et peut-être qu'il y a des joueurs qui se sont blessés. Ouais, qui se sont blessés à cause de ça. Parce qu'on a eu pas mal de blessures musculaires quand même saison. Mais alors là, l'histoire, elle est grosse. Moi, je l'ai. Je vais pas redire ce que j'ai dit, mais je l'ai en travers qu'un groupe mentalement n'arrive pas à faire fi d'un aléa comme ça, même si c'est un gros truc.
Ça pose plein de questions. Ça pose plein d'autres questions sur l'aspect mental. On a essayé d'interroger Laurent Nicolin sur justement cette équipe qui déraille au moindre grain de sable. Et quand je dis cette équipe, c'est cette équipe depuis plusieurs saisons. On n'a pas eu de réponse.
Il finit par dire peut-être.
Voilà, peut-être. Mais on n'a pas eu de réponse.
Peut-être qu'il y a en effet un souci.
Voilà, peut-être que lui ne se l'explique pas non plus. Hein. Et peut-être que ça, voilà, personne n'arrive vraiment à se l'expliquer, je sais pas.
Peut-être va falloir que quelqu'un s'occupe un petit peu de ce vestiaire et de ce groupe dans l'aspect mental. Peut-être. Parce qu'on le dit, ça fait plusieurs saisons.
Le cas Delors, votre sentiment sur le cas Delors?
Alors,
Qu'il illustre une nouvelle fois l'histoire de ce club qui peut détester, aimer,
et on se retourner, déchire, on s'aime. Mais ouais. Après, moi, j'ai un regard différent, bien évidemment, parce que je vois la colère des supporters, parce que les supporters ont aimé Andy Delors et sont dans la passion. Moi, j'ai un regard un petit peu extérieur, et la seule chose qui m'importe, je pense qu'il va revenir. Là, il envoie des signaux, ça envoie des signaux tous les soirs, je crois qu'il va revenir. Moi, c'est la seule chose qui m'importe. Je fais fi de ce qui s'est passé, je suis consultant et j'analyse. Est-ce qu'il va apporter quelque chose au groupe et au vestiaire? C'est ça qui m'importe. Dans quel état physique il est? Il a eu son malaise là-bas, mais est-ce que physiquement il va revenir fit? Il va revenir avec, est-ce que les blessures ça va aller? Parce qu'il commence à avoir de l'âge. Est-ce que physiquement ça va aller? C'est ça qui m'importe, parce que je sais qu'Andy Delors à 100%, bien évidemment, va aider l'équipe. En plus, n'oublions pas qu'il a TG avec lui. Donc alors là, il a son numéro 10 derrière et meilleur ami dans le football. Donc, et qui a une qualité monstre. Donc là, ça peut matcher. Mais la seule chose, mon interrogation est sur l'aspect physique, et je parlerai pas, comme j'ai pas été supporter comme ça, et je peux pas parler de l'aspect de ce qu'il a fait de la trahison.
Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, Laurent Nicolin, sur l'éventuelle trahison considérée par de nombreux supporters, la forme, la com, qui était quand même, faut bien l'avouer, très maladroite à l'époque, et quelque part, moi, j'ai envie de dire, c'est malheureux pour lui, pour Andy, parce que, mais ça m'étonne qu'à moitié, que voilà, par rapport à ce qu'on sait aussi de la façon dont elle était gérée, ça, je le dis, mais Andy, c'est malheureux pour lui, sa com a été maladroite, mais sur le fond, moi, je vais vous dire aussi, je finis parfois par le comprendre. Il avait peut-être lui senti aussi que ça sentait le roussi, et il avait bientôt 30 ans, il avait Nice face à lui, il a choisi, et il a choisi d'une manière catastrophique et lamentable sur la com, d'après beaucoup de supporters. D'autres lui en veulent beaucoup moins. Laurent ne lui en veut plus. Il lui en a beaucoup voulu, Laurent, faut le rappeler, ouais, aussi. Mais visiblement, il lui en veut plus. Donc à partir du moment où le président met son mouchoir dans la poche, en effet, peut-être que la seule question à se poser, si on est pragmatique aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est ou non performant aujourd'hui.
Voilà. Ouais. Est-ce que pour le coup Laurent ne fait pas ce qu'il ne fait pas avec Maxime Estève, c'est-à-dire qu'il met un peu ses sentiments de côté avec Andy Delors, et puisqu'il dit il faut pas ressasser, ouais. Il met de côté et il dit on a quand même vécu, il a quand même réussi 3 ans exceptionnels chez nous, il reste sur l'aspect purement sportif, etc.
C'est le temps qui a fait son œuvre. Après, ouais. Bien évidemment, il y a eu des rencontres, il y a eu beaucoup d'échanges depuis longtemps. On nous dit qu'il échange avec Andy Bertrand, et là, bien évidemment, les circonstances font qu'il va être libre dans 2 mois.
Non.
Pas
totalement. Alors ça va être la grande question. C'est que, et d'ailleurs Laurent le dit, l'aspect indemnité de transfert, puisque en fait Andy Delors ne serait pas si libre que ça, ça peut compliquer largement les choses.
Je pensais que c'était que jusqu'à la fin de saison, si on voulait le faire là.
A priori. Ouais. Alors je mets vraiment des pincettes.
Bah, Laurent dit lui-même, il faut qu'on éclaircisse ce sujet-là.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ce que je comprends, c'est jusqu'à la fin de son contrat au Qatar. Mais je sais pas, je veux pas dire de bêtises.
Supputé.
Il y a d'autres. On aura le temps évidemment d'en reparler de ce dossier. Il y en a d'autres. Le traitement des supporters, des réseaux sociaux, l'absence aussi a priori de remise en question. Qu'est-ce que vous voulez de quoi vous voulez parler?
Après, j'ai aucune. L'interview est très bien, Max. Hein.
Non, mais il n'y a pas de souci. J'accepte.
À part réellement d'avancer que Andy, c'est en gros. Ça, honnêtement, j'ai aucune surprise. Le tir pour Estève, mais j'ai aucune surprise. Parce qu'il envoie un petit peu quand même aussi sur les médias. Je trouve qu'il est assez virulent. Alors tu sais que souvent je te dis ce qui se passe dans
les réseaux.
Il y a les réseaux, mais il y a les médias aussi. Quand ils disent ce qui se passe, il y a maintes reprises, il dit ça doit pas sortir. Alors je suis le premier partisan de ça, mais là j'ai l'impression que la façon dont il le dit, c'est en gros je m'en fous de vous, j'en ai rien à foutre et tout. Pourtant je suis de l'autre côté maintenant, mais j'en ai rien à foutre. Les réseaux, il évoque les réseaux sociaux. On sait que ça fait un moment que ça le pèse, ce qui est dit sur lui, sur le club. On sait que ça fait un moment que ça le pèse. Donc en fait il a repris des points, le pétard et tout ça. Il a repris des points qu'on entend dans sa communication depuis pas mal de temps, que ce soit le président ou même le coach, hein, un petit peu sur le pétard, on l'entend souvent. Et en fait, à part réellement le tir à Estève, mais on se doutait que ça s'était pas super bien fini avec Maxime, et le retour d'Andy, où ça, on avait moins d'infos, que je pense pas que ce serait autant avancé. J'ai pas appris non plus 100 000 trucs.
Ouais, cette mais nous, on voulait revenir quand même sur par rapport aux réseaux sociaux, à sa manière de communiquer, justement. On voulait revenir sur. Pourquoi ce choix, finalement? Pourquoi ce choix de s'attarder autant sur les réseaux sociaux, de leur accorder autant d'importance? Pourquoi ce choix de communiquer peut-être un petit peu moins? Peut-être qu'on se fait une idée, peut-être qu'il... Voilà. Et je trouve qu'il y répond plutôt bien quand il dit... en fait, dans les reproches, on me dit que je suis pas Louis Nicolin, mais je sais pas faire. Ouais. Et je trouve ça dit beaucoup de sa manière d'envisager les choses, de la même manière que... Là, on lui reproche d'aborder encore une fois Média Pro ou d'aborder encore une fois le déficit structurel, mais c'est la première fois qu'il l'explique avec un petit peu de pédagogie, ce qu'on lui reprochait jusqu'à présent.
Ouais.
Donc, quand il le fait, quand il évoque sa gestion médiatique, on va pas lui reprocher de l'évoquer, puisque d'habitude, il le fait pas. On va pas lui reprocher d'évoquer le déficit structurel, puisque d'habitude, il le fait pas dans ces termes-là. Même si c'est pas une grande partie de l'interview, au moins, c'est clair. Je trouve que c'est didactique, entre guillemets, pour une fois.
Moi, le seul truc sur lequel je vais dire je le rejoins, puisque c'est quand même ce qu'il dit entre les lignes, c'est par rapport à une partie des critiques. Moi, les critiques, au contraire, je veux dire, on en relaie plein dans l'émission, on en fabrique aussi certaines. Pas de souci, au contraire, elles seront toujours les bienvenues. C'est simplement quand ça va dans l'insulte, dans la chasse aux sorcières, avec des mecs qui ont sorti récemment des noms de l'organigramme, des photos qui se sont défoulées sur les réseaux. Ça, je le rejoins. Ça, c'est à gerber. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux à l'époque actuelle.
D'ailleurs,
je veux dire, il y a des gens comme ça sur des chasses aux sorcières sur les réseaux sociaux qui finissent très mal et qui se font du mal.
Il était très touché par rapport à ça.
Mais bien sûr.
On n'a pas pu évidemment tout mettre, mais il avait besoin d'en parler de ça.
Ouais, mais parce que attention, je veux dire, il faut pas confondre dans ce que je dis, c'est-à-dire que en effet, moi, je discute avec plaisir avec 99% des supporters et ils sont pertinents, intéressants. Il y a pas de souci, les critiques seront toujours les bienvenues. Mais après, il y a quelques toutologues, comme on dit parfois depuis le Covid, qui ont réponse à tout, qui savent tout, surtout avant tout le monde, sans avoir échangé avec personne au club, sans avoir aucune info, sans mettre les pieds à l'entraînement, et ils te donnent des grandes leçons. Mais non seulement ils te donnent des grandes leçons, on en a fait les frais récemment avec Maxime Reynaud, on s'est frité avec l'un d'eux, qui est quand même le dernier des imbéciles. Et ben, je suis désolé, ces mecs-là, en plus de donner des grandes leçons, ils font du tort parce qu'ils sortent l'organigramme et ils pointent des noms, et ce serait la dernière fois s'il pleut à la Mosson, c'est la faute de la com, la dernière fois. Et ça, je suis désolé, mais sortir des noms, les pointer, les harceler quasiment, ça c'est minable. C'est minable, et ces gens-là ne mériteraient qu'une chose pour le coup, parce que ce sont pas des gens qui critiquent ça, ce sont des gens qui font du mal. Et Laurent, je le rejoins sur ce point, ils sont une poignée, mais ils font beaucoup de mal. Ils sont souvent en plus très influencés, et ceux-là, j'espère en effet que le club va s'y attaquer. Je le dis très franchement, pour tous les autres, pas de souci, la critique, il n'y a pas de problème, on la relaiera toujours dans l'émission. Par contre, ces gens-là, ce sont des gens dangereux.
Il est chaud, c'est la Normandie c'est le retour en Normandie qui sera
peut-être, c'est possible.
C'est le volcan du Havre.
En fait, t'es meilleur quand t'es pas avec moi. Hein?
Mais je crois que tu me brides. Tu me brides. Voilà, ma femme me dit la même chose. 18h57. On va devoir bientôt rendre l'antenne. Benoît Donquel a assisté.
Très intéressant, passionnant.
À ce débat, il y aurait encore plein de choses à dire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à lire par vous-même l'interview de Maxime Reynaud et Marc Blacquer dans le Midi Libre. D'abord de vous abonner, de l'acheter, de lire dans son intégralité. En effet, il a raison, Maxime. Tout n'est pas retranscrit, puis même dans les passages que vous pouvez voir à droite à gauche, c'est mieux d'aller à la source et de tout lire si vous le pouvez.
Ne lisez pas que des morceaux, lisez dans l'intégralité.
Et faites-vous votre propre idée. Après, on en débat à l'antenne. J'ai pas pu ce soir pour des raisons techniques, parce qu'on est à distance comme ça, etc., lire les messages sur Bleu Paillade, mais vraiment merci de continuer à le faire et continuer. Je les lirai dès lundi quand je serai de retour. On avait aussi éventuellement quelques appels. C'était un peu plus compliqué ce soir. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais je vous remercie aussi. Continuez de le faire. Tony, Pierre, on vous prendra lundi si vous le souhaitez. C'est promis. Je m'y engage. Et c'est une promesse, pas comme les promesses estivales. C'est une promesse de Normand.
Voilà. Moi, je suis déçu, Bertrand, que t'es pas, toi, l'amoureux des animaux, que tu aies pas parlé de la houtarde de Pérol qui restera comme un animal symbolique de l'échec du nouveau stade pour l'instant.
C'est le temps d'en parler, ça aussi.
Oui. Bon, messieurs, merci beaucoup. Maxime Reynaud, Benjamin Psaume à Montpellier. Merci, on se retrouve dimanche pour le match à 15h. Benoît Donquel également qui était avec moi.
Surveillez-le-moi, Benoît. Hein, attention,
retour sur France Bleu.fr. Bonne soirée à tous. À bientôt, les amis.
Salut. Ciao.